En suivant le thème des orientations d'avenir, nous aurons une table ronde d'une quarantaine de minutes. J'espère stimuler des conversations intéressantes et des questions de votre part. Alors, commencez à réfléchir, faites fonctionner vos cerveaux. La première personne à prendre la parole est Jackie Webb, directrice générale depuis le CNSA. Depuis que ça a commencé en 2005, elle a fait du travail pour le groupe de soins aux éléments d'élevage en Alberta et d'autres groupes. Mais la solide, le raisonnable, est Jackie Webb. C'est toute une présentation. Bon, je ne sais pas, mais moi, j'ai mal au cerveau avec toutes ces informations qu'on a depuis 2 jours. Je pense qu'on a eu des conférenciers magnifiques. J'espère que vous avez pu en profiter autant que moi. Maintenant, nous voulons regarder l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire? On arrive à la fin du projet d'agri-flexibilité, ce qui a financé tout ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, y compris cette conférence. Et le temps est arrivé de réfléchir à ce qu'on a fait et à l'avenir, et en planifiant l'avenir. Et je suis un peu ce que Stéphanie a dit. On veut avoir vos commentaires pour que nous puissions aller vers l'avenir, une valeur principale et l'approche collaborative pour aborder le bien-être des animaux et la viabilité de l'agriculture canadienne. C'est votre occasion de vous voir comme avenir pour le CNSAE. Mais avant de tout commencer, je veux donner un cadre à la conversation. En 2011, on a demandé au Dr. David Fraser de faire le mot de la fin sur cette conférence. Il a parlé de sa vision pour CNSA à l'avenir, et chaque panéliste aujourd'hui va parler de sa vision pour le CNSA. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dr. Fraser, mais il ne devrait pas y en avoir beaucoup, il s'agit d'une vedette du bien-être mondial et connu partout au monde, et ses mots de prudence sont sujet de réflexion. Par rapport à sa vision, il avait dit à la conférence de 2011, et passionnant de voir ce groupe, le dévouement, la qualité des personnes qui sont attirées par cette question. Il louait le processus d'élaboration du nouveau code. Il aimait le fait qu'on mette le fait sur des mesures axées sur le processus et sur le développement. Mais il était préoccupé aussi par l'avenir du CNSA. Il exprimait aussi un espoir. Le fait que ce soit comme un employé à terme fixe, ça devrait nous faire peur. Et j'espère que nous pourrons retourner chez nous avec la détermination de donner à cet organisme l'avenir qu'il mérite. Alors, nous sommes où lors de la dernière conférence en 2011? Nous étions dans les premières étapes des mises à jour de plusieurs codes et de l'élaboration des codes. Et 2 ans plus tard, nous avons 4 codes mis à jour, de nouveaux progrès sur 4 autres, un nouveau processus d'évaluation des soins aux animaux et un nouveau programme. Le fait qu'on travaille de façon collaborative aussi sur la question du bien-être animal, un sujet très controversé, je pense que c'est positif. Depuis quelques jours, nous avons célébré nos réalisations, mais on reconnaît que les défis auxquels nous faisons face et ferons face, nous ne savons pas tout à fait, on ne s'est pas encore conformé à la vision du Dr. Fraser, mais il reste beaucoup de travail. On a placé la barre très haut. C'est peut-être trop haut. Je pensais qu'il fallait qu'on prouve qu'on était capable et on l'a fait. Et quand je dis « nous », je veux dire « nous tous ». Le CNSA, c'est tous ceux qui sont ici dans ce salon. On n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a réalisé sans la participation des gens au conseil, le comité exécutif, le comité d'orientation et le programme d'évaluation du soin laitier. Tout le monde est fatigué par tout ce processus d'élaboration de code. Alors, l'avenir, nous devons avoir un plan de travail qu'on peut gérer mieux et qui est plus durable. Nous avons été très occupés à faire énormément de travail et il y a certaines personnes qui se sont amusées un peu, surtout ceux qui ont travaillé sur le code des équidés, mais nous avons fait énormément de travail et on n'a pas eu beaucoup de possibilités de dire aux gens à l'extérieur du CNSAE ce qu'on a fait et comment on le fait. Pour moi, l'avenir du CNSE, ça doit être mieux raconter notre histoire. Si on peut mieux gérer la charge de travail et mieux se raconter, peut-être que ce que le docteur a critiqué comme travail à court terme, ça va être quelque chose du passé. Alors, maintenant, je voudrais demander aux experts de s'exprimer. Je vais appeler les noms des panélistes pour qu'ils puissent venir en avant. On va leur demander de parler au micro et ensuite s'asseoir. Édouard Hassan est le premier. Édouard est notre président depuis longtemps. Aujourd'hui, il ne va pas parler en tant que président, mais en tant que producteur de porc. On va voir ce qu'il dit. Edouard. Merci, Jacqueline. Bonjour à tous. Je veux remercier de votre patience. Certainement, je pense que nous avons fait beaucoup de travail. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Faire 8 codes en même temps, ça exige énormément d'efforts. J'ai mentionné ça hier. Nous avons le défi de maintenir tous les intervenants autour de la table, les membres réguliers et associés. C'est volontaire et on travaille avec un consensus, mais je pense que nous avons tous les acteurs du milieu. Et je suis très content de la mise en œuvre des détaillants qui sont revenus à la table et qui sont très engagés à la participation aux discussions. Le travail est très reconnu par nous, mais nous avons beaucoup de choses à faire encore. On est en train d'examiner les codes, mais il y a aussi la mise en œuvre. Catherine a fait une présentation sur le secteur du port. Ce n'est pas facile de mettre en œuvre le code. Quand on parle de changer vraiment les murs et les briques de nos structures, faire le concret, ce n'est pas très facile. Et je vois un certain avantage de ce que nous faisons. On peut faire une distinction, les différents attributs de nos produits. Je pense qu'on travaille mieux dans le marketing, on travaille beaucoup sur la salubrité des aliments, on travaille sur l'environnement et dans le bien-être animal. Il faut faire connaître cette réalité aux consommateurs. Et on devrait élaborer une marque commerciale pour notre système canadien pour qu'on puisse faire un peu de publicité. Il y a tellement de normes pour les programmes. Si chaque détaillant commence son propre programme, les consommateurs ne vont plus comprendre quoi que ce soit là-dedans. On devrait penser de façon sérieuse à la faisabilité de ces choses-là. Différents groupes de production peuvent utiliser cette marque de commerce. Il y a plusieurs campagnes sur les produits locaux et on peut utiliser cet aspect dans notre stratégie. Jackie a aussi mentionné les communications. Il faut que les gens connaissent notre organisation. On fait du travail incroyable et les producteurs font beaucoup de travail à la ferme. Les consommateurs doivent en être conscients. Je ne veux pas dire que les producteurs ne soient pas préoccupés par les animaux, mais avec les évaluations, nous pouvons le prouver et donner plus de crédibilité à notre travail. On devrait élaborer peut-être une marque de commerce et des étiquettes. Il faut avoir des communications avec les détaillants. Les détaillants sont très importants. Ils parlent avec les consommateurs tous les jours. Il y a un monsieur qui a mentionné que Tim Hortons pourrait avoir une vidéo parce que les gens sont présents. Les détaillants pourraient aussi le présenter. Les producteurs peuvent élaborer quelque chose, mais on ne peut pas mettre un produit dans les magasins. C'est aux détaillants de le faire. Il est aussi très important de mentionner que le CNSAE travaille pour tous les intervenants et on travaille avec un consensus et ça nous permet de parler d'une seule voix. C'est important de cultiver cette approche. Je veux remercier de votre patience parce que je ne suis pas un conférencier chevronné, je le sais. Edouard a fait énormément de choses pour faire avancer le CNSAE et on devrait reconnaître sa capacité de maintenir ce groupe un peu compliqué ensemble. Alors, la prochaine expert est Sonia Ferrer, principale directrice pour la responsabilité des entreprises de l'Oblast. Et l'Oblast fait partie du CNSAE. Avant qu'elle intervienne, j'ai oublié de mentionner que nous sommes ici pour écoutez aussi vos orientations. Bonjour. Je veux remercier de cette occasion de parler avec vous aujourd'hui et je veux profiter de cette occasion de féliciter tout le monde pour s'être approprié toutes ces questions importantes. Et je travaille chez Loblaws 2008 dans la responsabilité des entreprises, même si je ne suis pas experte dans le bien-être des animaux. Je travaille pour le détaillant le plus important du Canada depuis plusieurs années. Mais j'ai travaillé longtemps sur les OMG, l'emballage, les déchets, la réduction de la consommation énergétique. J'ai aussi travaillé avec le bien-être des animaux. Depuis quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs personnes qui sont présentes ici. Je peux vous offrir la perspective de mon entreprise et certains défis auxquels on fait face. Et nos engagements en 2011, nous avons dit que toutes les étiquettes privées, ça veut dire marque President's Choice. Et nous allons faire avec seulement une étiquette de plus. Et plusieurs parmi vous savront qu'on s'est engagé avec sept autres détaillants d'épicerie d'acheter seulement du porc dans les situations de logement alternatif à partir de 2022. J'ai dû écrire un article avec la revue Industry sur notre engagement et j'ai félicité les producteurs pour leur engagement et j'ai reconnu les défis à l'avenir. J'ai écrit que le bien-être animal ne devrait pas être un avantage concurrentiel dans l'industrie. En fin de compte, il s'agit du bien-être de l'animal. Il aurait été irresponsable de nous engager sans comprendre tout d'abord les questions en jeu et être dans les réunions où on discute de ces enjeux. la compréhension des différents aspects et l'approche holistique sont très importants. C'est pour ça que l'OBLA était présent quand le CNSAE était créé. Et c'est pour ça qu'on a fait partie du processus. On a des relations avec les agriculteurs depuis des années. L'OBLA est une entreprise dirigée par une famille qui existe depuis 125 ans et qui va rester une entreprise importante au Canada pendant beaucoup d'années. C'est pour ça que nous avons une approche à long terme. Il y a une diapositive. Nous sommes aussi en lien avec le consommateur et le bien-être animal fait partie des préoccupations des consommateurs. Vous allez voir ici, ce sont des constatations récentes de la recherche. Je sais que ça provient des États-Unis, mais on l'avait présenté en août dans une conférence à laquelle j'ai assisté. Et la conférence des détaillants du Canada était là avec les grands détaillants des États-Unis qui démontrent l'importance du bien-être des animaux par rapport aux attributs que les consommateurs cherchent d'une entreprise. Une attente fondamentale est le bien-être des animaux. C'est aligné sur nos propres constatations dans le sondage qu'on a fait en avril avec nos consommateurs de l'OBLA et des acheteurs qui ne sont pas de l'OBLA. Alors, quand on demandait où on devait mettre une priorité, ça se trouvait dans les 10 points les plus importants. La société est de plus en plus consciente de ces aliments, mais on pense qu'on ne devrait pas payer plus cher pour plus de bien-être animal. Les consommateurs ont le droit de poser des questions et demander certains produits parce que c'est eux qui paient. Comme détaillants, on fait face, nous aussi, à des défis. On doit équilibrer les attentes et des producteurs et des consommateurs. Et on s'attend à ce qu'on exige des vendeurs les valeurs justes dans plusieurs domaines, y compris le bien-être animal. Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec le calendrier pour le logement alternatif, mais on a donné beaucoup de temps pour les nouvelles installations. Le coût de la transition devra faire partie de la planification à long terme, mais comme détaillant, nous sommes aussi préoccupés par le coût qu'on paierait si on ne faisait rien. Le statu quo ne peut plus être acceptable. Il s'agit de construire une chaîne d'approvisionnement et on doit gérer le risque pour la réputation et changer selon les priorités, les préoccupations et les besoins du consommateur. Je pense que l'industrie du porc peut devenir un chef de file et a beaucoup de possibilités d'innover et de donner des résultats positifs. Je dirais qu'à partir de la liste des recommandations du Dr. Fraser en 2011, le tout est important pour nous comme détaillants et le CNSA doit jouer le rôle de chef de file dans ce domaine. Nous devons continuer à être de ressources, recevoir les bonnes informations scientifiques et des points de vue équilibrés. Nous voudrions continuer à collaborer avec tous les intervenants vers l'avenir, comme nous faisons partie de la chaîne de valeur. Et nous sommes en lien avec les consommateurs directs de vos produits. Il ne faut pas oublier que le consommateur est notre raison d'être. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Le prochain conférencier devait être David Truss, mais David a décidé que le bien-être de son mariage était plus important que sa présence ici cet après-midi. Je ne vais pas vous expliquer ça en détail, mais vous pouvez poser la question à David. Il a probablement fait le bon choix. Alors, Gordouman, qui est de l'ACEA, a accepté de remplacer David et Il va bientôt prendre sa retraite, alors il va peut-être nous dire des vérités très directes. Alors, on va voir ce qu'il nous offre. Et il a aussi l'étiquette de David. C'est David qui va assumer les responsabilités de tout ce qu'on va dire. Nous sommes des jumeaux. Peu de personnes le savent. Dave m'a préparé pendant 5 minutes et je l'en remercie, mais quand je regarde les recommandations de David Fraser, nous croyons que sa vision est excellente et nous pensons aussi que la CNSAE est la bonne organisation pour mettre en œuvre ces recommandations. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est une entreprise à long terme et nous avons plusieurs options et à chaque étape, nous devons choisir notre option avec beaucoup de soin. Et je vais en mentionner plusieurs maintenant. D'abord, la révolution ou l'évolution. C'est quelque chose que Rhonda Haven a soulevé aux États-Unis il y a quelques années aussi. Il y a un lance un appel au changement rapide. La solution rapide semble évidente superficiellement, mais l'approche révolutionnaire ne résiste jamais à l'histoire. C'est une approche qui n'est pas équilibrée. Il ne s'ajuste jamais aux intérêts de tout le monde. Alors, il ne s'agit pas d'une approche durable dans la plupart des cas. Et notre choix est entre une bonne image et une mise en œuvre pratico-pratique. C'est très intéressant de faire un choix qui semble être le meilleur, mais ça veut dire qu'il faut. Ça veut dire qu'on accepte ce qui est à la mode, mais les modes changent et à un moment donné, on va être dépassé, améliorer le bien-être des animaux et pour être à l'avantage des animaux. Ce n'est pas un concours de popularité. Alors, si on regarde l'approche de la bonne image, on peut s'opposer à la science et à d'autres objectifs en plus du bien-être des animaux. On peut choisir aussi entre les tendances et les faits probants scientifiques. Il y a toujours des pressions pour aller dans un sens ou dans un autre, vers une tendance ou non. Mais pourquoi? Est-ce que la tendance d'aujourd'hui est empreinte de sagesse ou non? Un autre choix. Est-ce qu'on doit diriger le marché ou suivre le marché? Si on dirige le marché, qu'est-ce qui va se passer si le marché change de chemin? Alors, si on a décidé d'offrir quelque chose qu'on ne veut plus, et qu'est-ce qui va se passer si on dirige le marché et les gens ne veulent pas payer le prix? On peut peut-être échouer si on essaie de le faire. L'autre option serait de suivre les marchés, mais entre autres, est-ce que les marchés sont toujours sages? Est-ce qu'ils sont fondés sur quoi? Et si d'autres ont déjà fixé la tendance du marché, est-ce que le Canada ne perdrait pas la capacité d'avoir sa propre marque, image de marque? Est-ce qu'on ne deviendrait pas des gens qui suivent? Mais il y a une solution de rechange. Que l'industrie ait un échange constant avec les marchés. Alors, la question qui se pose, c'est comment le faire? Un autre choix, et on doit souvent faire ce choix, est-ce qu'on impose des normes gouvernementales ou est-ce qu'on demande à tous les intervenants du milieu d'élaborer leurs propres normes? Les normes imposées par le gouvernement, qui sont normalement des règlements, sont quelque chose qu'on demande très souvent de mettre en œuvre, mais est-ce que le gouvernement fait preuve de sagesse? Est-ce que le gouvernement prend toujours les bonnes décisions? Les règlements Oui, ont un rôle à jouer. Au Canada, nous avons une approche équilibrée entre les règlements et les normes volontaires des intervenants. Les règlements sont aussi limités. C'est pour ça qu'on n'a pas seulement cette approche, c'est rigide, c'est coûteux et ça prend beaucoup de temps pour les changer, et tandis que les règlements volontaires peuvent être adoptés très rapidement. Il faut travailler avec les deux. Un autre choix, est-ce qu'on reste sur place, est-ce qu'on change? Si on reste sur place, on défend le statu quo. Ce ne serait pas arrogant de penser que nous avons toutes les connaissances en ce moment et que les nouvelles informations qui arriveraient plus tard ne seraient pas valables. On ne devrait pas rester, avoir une ouverture face au changement. Et deux questions. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre compréhension de l'industrie et du marché? Et comment est-ce qu'on peut éduquer ce qu'on appelait avant le grand public non engagé? Merci beaucoup, Gold. Le dernier expert est Jeff Urton de SPA de la Colombie-Britannique, qui fait partie du comité de conseil d'administration et du comité exécutif du CNSA depuis très longtemps. Merci, Jackie. J'allais conclure avec ce que Dord a dit. Alors, je vais commencer par là. Une chose qui m'a frappé aujourd'hui dans la présentation de Stephanie McCallum, c'est ce qu'elle a dit. J'ai pris des notes. Je ne sais pas si je l'ai exactement. Si vous voulez des résultats, il faut être ouvert, transparent et prêt à aller de l'avant d'une façon différente. Alors, c'est un défi. Et c'est en même temps une occasion pour le Conseil d'essayer de comprendre cela. Comment est-ce qu'on peut travailler avec plus de producteurs et un secteur plus important du grand public? Nous pensons que nous avons tous les représentants appropriés, mais on devrait peut-être aller chercher dans des milieux un peu plus larges pour être sûr que nous avons plus d'acceptation pour notre travail. Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement de faire de l'éducation auprès des gens. Je pense que les citoyens, les consommateurs et les producteurs peuvent tous être injuriés si une notion un peu arrogante, un peu hautaine, si on dit aux gens qui ne sont pas bien renseignés, qui doivent être éduqués, ils sont insultés. Et pour les consommateurs et pour les producteurs, le dire ça, c'est une insulte. Il faut travailler, les engager dans un dialogue, et je ne sais pas exactement comment le faire. C'est une question que je pose à tout le monde. Comment le faire de façon importante pour aller chercher un public plus large? Et on ne peut pas simplement augmenter le volume de notre message. Il faut faire un dialogue à deux voix, plutôt. Une autre chose que j'ai entendue plusieurs fois aujourd'hui, c'est l'expression d'un sentiment. On a besoin d'un engagement honnête envers ce qui est correct. Nous avons élaboré un processus de consensus dans les codes de pratique. On a réussi à terminer plusieurs codes, et aujourd'hui, j'ai entendu ça dans les commentaires de Jeff Ansell. Il a dit que c'est important de démontrer qu'on a de l'empathie et nos préoccupations, mais on doit aussi s'engager envers l'action. Ce n'est pas seulement dire que les agriculteurs sont préoccupés, mais il faut aussi le démontrer. Et David Smith, qui a fait des présentations depuis longtemps au conseil, il était avant avec Sobe. Il a dit qu'on ne peut plus demander aux gens de nous faire confiance. Il doit démontrer la conformité avec les normes. Alors, pour tous les membres, pour le conseil, je pense qui est un processus magnifique avec l'évaluation des animaux. On a la possibilité de démontrer que les nouveaux codes sont l'objet de la conformité des. Ça va aider notre industrie à se conformer aux recommandations de l'honnêteté et l'industrie. Alors, quand l'industrie veut parler des codes et de l'engagement envers le bien-être des animaux, il y a une certaine assurance qui soutient leur engagement. Le CNSAE est une excellente instance pour faire ce travail. Nous avons de très bons outils et nous avons des personnes excellentes qui travaillent avec nous pour essayer de résoudre le problème qui sont encore devant nous, l'engagement, l'assurance. Peut-être que nous n'avons pas encore résolu ces problèmes. Avec toutes les tâches sur les listes, mais je pense que nous avons le bon personnel pour le faire. Ça, c'est le chemin à suivre pour le Conseil pendant 5 ou 10 ans. On doit continuer à faire un dialogue pour avoir une approche qui restera crédible. Merci. Je remercie chacun des panélistes maintenant qui nous ont fait part de leur réflexion. On va écouter vos commentaires. Betsy prend des notes. On est en train... Oui. On me dit que quelqu'un prend des notes de vos commentaires et on va en discuter au conseil d'administration du CNSAE. Et nous sommes engagés vers cette collaboration améliorée et nous voulons connaître vos idées pour une vision du CNSA pour l'avenir. J'espère que quelqu'un va lever la main bientôt. Sinon, je vais trouver des personnes, je vais pointer des gens du doigt. Est-ce que quelqu'un va peut-être contester la vision d'un des panélistes pour dire que vous êtes d'accord ou proposer une autre vision? Eugene, je savais que je pouvais compter sur lui.
Jackie, il me semble que tu as évité de parler d'un des préceptes du Dr. Spooner. C'est que vous êtes un employé à contrat. Moi, ce que je veux savoir, tu dis que tu veux contempler un plan de 5 à 10 ans, mais comment est-ce que votre organisation va être financée durant les 5 à 10 prochaines années? Donc, avant d'établir quoi que ce soit et de parler de ce qu'on devrait faire, on doit savoir d'où les sous vont venir. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je voudrais te retourner ça. Aide-nous! Et ça, c'est une question pour chacun d'entre vous dans la pièce aujourd'hui. Comment un de mes messages, c'était qu'on avait besoin d'un plan de travail qui soit durable et gérable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a les ressources, on doit avoir les ressources de continuer à faire ce qu'on fait. Et ça, c'était quelque chose de difficile à saisir. Et on a eu des problèmes avec ça au CNSAE. Donc... Le conseil d'administration s'est débattu avec ce problème au fil des ans et je crois que c'est un défi qui a été présenté. C'était le défi de David Fraser. Alors, où est-ce qu'on en est rendu? Et donc, peut-être que tout le monde pourrait présenter ses idées sur comment résoudre ce défi. C'est à chacun d'entre nous de répondre à ceci. Est-ce qu'il y a des membres du panel qui veulent dire leur mot? Les ressources financières, c'est toujours un problème. Nous sommes membres de tant d'organisations qui ont toutes besoin d'argent, donc il y a des limites à ce qu'on peut donner à chaque organisation. Mais ce que je vous dirais, c'est un bon moment pour les gens dans la pièce d'exprimer leurs besoins, parce que la plupart des directeurs sont là. Donc, ils voudraient donner ce message. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et maintenant. Et donc, ça peut coûter plus cher, mais c'est important. Donc, c'est à vous, dans la pièce, de suggérer quelles devraient être les priorités. Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit à ça? Oui, bien sûr, Eugène, vous avez raison, c'est la première étape au CNSAE. La question des ressources, bien sûr, nous fions au soutien du gouvernement fédéral. Nous avons fait deux demandes pour Cultivons l'avenir 2, pour finir les deux codes qui ont été commencés avec le financement AgriFlex, les codes pour la volaille. Et puis, on veut continuer à mettre d'autres codes à jour. Et puis, il y a la composante évaluation. Ron, est-ce que vous avez une question? Merci. Je crois que ce que le CNSAE a fait et ce que le Dr. Fraser a dit en 2011, c'est très juste. Nous avons commencé un processus. Nous avons rassemblé les intervenants. Et maintenant, nous avons une entité qui est acceptée par les intervenants, que ce soit du côté des producteurs ou des détaillants. Et comme Sonia l'a dit, on est là pour les consommateurs aussi, pour s'assurer que ce qu'on produit est acceptable pour tout le monde. On a le privilège de les informer sur ce qu'ils vont acheter et également, on s'occupe de comment les producteurs gagnent leur vie. Et ça serait mauvais de perdre le CNSAE parce que on a besoin de quelqu'un pour jouer ce rôle. Comme Gord l'a dit, le marché est déjà en train de changer. Donc, on a besoin de quelqu'un, d'une entité pour surveiller ces changements. Et pour effectuer les changements, parce qu'il y a des changements à faire dans le marché, mais également dans la production. Donc, comment est-ce que nous allons accepter ces changements et faire qu'ils soient acceptés et ensuite qu'il y ait des conséquences dans la chaîne alimentaire? Donc, je pense qu'il y a encore un rôle pour nous à jouer. Qui va financer ceci? Ça, c'est toujours la question. Est-ce que c'est financé par ceux d'entre nous qui participons à la chaîne alimentaire, ou alors est-ce que ça fait partie du bien public, ou est-ce que c'est un mélange des deux? Mais il faut déterminer tout d'abord qu'il y a un besoin et où le conseil peut intervenir. Et une fois qu'on a les buts, la vision, la stratégie, et que c'est accepté par cette entité ici, je crois que c'est à ce moment-là, il faut décider où est-ce qu'on va obtenir l'argent et est-ce que ça a suffisamment de valeur pour qu'on continue. Nous, les producteurs laitiers, nous pensons que c'est une organisation importante parce que le bien-être animal est quelque chose de très important et on a besoin de quelqu'un qui est là pour surveiller les choses, une organisation pratique et fiable. Merci, Ron. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quoi que ce soit? Moi, je viens de la SPCA de la Saskatchewan. Je l'ai déjà dit des milliers de fois. J'aime beaucoup le conseil. Je crois que c'est une organisation extraordinaire. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont impliqués. Je pense que c'est vraiment très bien. Et c'est un commentaire sur quelques petites choses que j'ai entendues cet après-midi. Moi, je serais vraiment inquiète si on parle de préserver les marchés et de garder le consommateur heureux. On devrait parler surtout du bien-être des animaux, de ce qui est le mieux pour les animaux. Et bien sûr, moi, je vois ça d'une perspective assez étroite. mais j'espère qu'on va continuer à se concentrer sur ce qui est bien pour les animaux, fondé sur la science et sur le consensus qui émane des consommateurs. Et le marché suivra, parce que les consommateurs vont y croire si c'est un bon processus. Ils n'y croiront pas si c'est juste une campagne de marketing. C'est un très bon point. Allez-y. Pour retourner à la question de la durabilité et du financement, un autre panéliste avait mentionné l'idée comme quoi il y aurait un coût si on n'allait pas de l'avant sur ces enjeux. C'est Sonia. Donc oui, bien sûr qu'il y a un coût si on ne va pas de l'avant d'une manière proactive. Et malheureusement, je crois que ce coût est difficile à calculer. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'entendre quelqu'un, par exemple, dans l'industrie de la fourrure, qui a eu une certaine expérience lorsque les gens ont abandonné leurs produits pour des raisons de protection des animaux. Et on a des exemples de ce qui peut arriver lorsque les gens choisissent de ne pas acheter vos produits parce qu'il y a des problèmes en ce qui concerne les animaux. À qui est-ce qu'on doit poser la question, je me demande. Oui. Il n'y a pas de question. C'est plus facile de garder les marchés plutôt que d'en obtenir de nouveaux. Excusez-moi. Pour un certain nombre de raisons différentes, notre industrie a été attaquée. On ne va pas revoir tout ça, mais le résultat, c'est qu'on peut ne plus avoir accès à certains marchés. Il y a des groupes de consommateurs ou le public qui prennent certaines positions qui sont très difficiles à contrecarrer. Donc, je pense que c'est très, très important. Et vous y avez fait allusion, Jeff. Le coût de ne rien faire sera beaucoup plus grand que le coût de faire ce qu'il faut et d'être proactif. Ceci étant dit, je suis certain qu'il n'y a personne ici, aucun des intervenants qui vont dire « Je suis prêt à payer beaucoup plus pour soutenir le CNSAE et pour faire les choses qui ont besoin d'être faites. » Moi, je m'attends à ce que ces choses vont être faites. L'argent viendra de je ne sais trop où et puis on vivra tous heureux très longtemps. Donc, ma suggestion à moi, ce serait que ça ne va pas arriver. Moi, je suis au CA du CNSAE et je suis au Conseil depuis longtemps et j'ai vu qu'on s'est disputé sur quelques centaines de dollars pour arriver à boucler le budget. Et même, c'était désagréable. Et on dit, pourquoi est-ce qu'on passe une heure et demie à essayer de décider où on va obtenir 10 000 autres dollars? Vous vous en souvenez? Donc moi, mon défi, ce serait pour tous les intervenants et qu'il faut qu'on ait plus d'intervenants, plus de parties prenantes qui s'engagent, qui comprennent que d'être proactive, ça va être beaucoup moins cher que d'agir par réaction. Donc, à l'avenir, le groupe du CNSAE a besoin d'être le groupe phare pour le bien-être des animaux, mais tout le monde doit bien comprendre que ceci coûte des sous et qu'on doit s'en occuper mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça revient à la responsabilité du conseil. On doit trouver le temps pour que le conseil fasse sa propre promotion. Tous ceux qui sont impliqués avec le conseil travaillent avec le conseil. Ils comprennent les contributions et le potentiel du conseil. Mais ça se résume au financement stable. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'espoir d'obtenir du financement de base de la part du gouvernement. Le financement de base va provenir de l'industrie, de tous ceux d'entre nous dans la pièce qui croient en cette approche. Donc moi, je pourrais dire qu'à l'avenir, il faudrait trouver des moyens de lever plus de fonds pour faire certaines choses bien précises. Je ne suis pas en train de suggérer qu'on double le mandat de ce que fait le Conseil, mais ce que je vous dis, il faudrait voir quel est le montant de ressources humaines et financières dont on a besoin pour couvrir les domaines qu'on a établis comme priorité. Donc, Jeff, tu ne m'as même pas donné 5 minutes d'avertissement, mais bon, c'est ça ce que j'en pense. Merci, Gary. Ryder. Merci, Jackie. J'ai essayé de rester assis et d'écouter, mais j'ai pas pu. Il a fallu que je me lève et que je parle. Je suis impliquée avec le CNSI depuis longtemps et j'en vois la valeur et je suis allée. J'ai vu au comité les producteurs. Et je vois, ici, nous avons un groupe qui pense partir d'ici en comprenant ce que le CNSAE fait. Bon, je pense que les gens font du bon travail. Mais lorsque vous retournez chez vous, est-ce que votre organisation va en profiter ou non? Selon votre domaine, et bon, peu importe d'où vous provenez, mais si vous ne venez plus à ces rencontres ou que vous n'allez pas aux rencontres de votre association, est-ce que votre association parlerait du CNSAE? On dit, bon, la facture augmente, donc bon, ils font du bon travail. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le CNSAE ne va pas aussi loin qu'il devrait dans les actions que nous représentons. Et je suis aussi coupable que les autres. Alors, le processus du code va aider les groupes de l'industrie à comprendre ce que fait le CNSAE. Mais ça doit être connu. Le Dr. Johnson, par exemple, les gens doivent connaître quelle est la valeur du CNSAE. Alors, les Michel et les gens au gouvernement provincial doivent comprendre quelle est la valeur du CNSAE. Toutes les associations de producteurs également doivent en parler. Les gens les représentants des détaillants et des services alimentaires, vous devez également faire connaître le conseil. Mais si ça reste ici dans la pièce, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Merci. Peggy, je voudrais vous dire quelque chose. C'est très important que nous entendions quelqu'un des provinces. Comment est-ce que le CNSAE peut se relier aux provinces? C'est important d'écouter ce que vous avez à dire. Guy, tu leur donnes un petit peu de temps pour penser. Guy? Je suis assez nouveau dans ce processus et dans le groupe. Je ne sais pas si c'est bon, mais bon, c'est comme ça. Et donc, lorsque je viens, je suis responsable de certains des programmes qu'on veut faire connaître par les PLC. Et bien sûr, le bien-être animal en fait partie. Le travail d'acceptation, et quand on essaie de vendre ceci aux producteurs, eux, ils veulent être reconnus. Bien sûr, il y a la certification. On m'appelle à peu près toutes les 2 semaines par une compagnie qui veut nous aider à être certifiée par-ci, par-ça, et qui veut un logo. Mais bon, il y a une certaine valeur à ça, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait par le CNSAE. Donc, pour nous, de demander à des producteurs de se conformer au code et d'avoir une sorte de certification pour le bien-être animal, ça ajoute de la valeur pour le producteur. On a parlé de l'image de marque et je sais qu'il y a beaucoup de valeurs associées à ça. lorsqu'il y a une reconnaissance, un programme de reconnaissance, une certification, il y a toujours des moments où, où il faut faire quelque chose ou punir quelqu'un qui ne respecte pas la ligne de conduite. Mais pour l'avenir, si vous voulez aller chercher cette valeur, il faudrait qu'il y ait un programme de reconnaissance. Moi, je pense que c'est une bonne partie de ce qu'il faudrait faire. Merci, Guy. Est-ce que c'était assez de temps pour que quelqu'un des provinces se manifeste? Il nous reste 5 minutes. Penny? Hello, Jackie. Moi, je représente le gouvernement provincial au CNSAE. On a déjà parlé de ceci. Je me souviens, Suzanne, au comité des experts. Il y a toujours eu des lacunes. Et bien sûr, les codes de pratique sont très, très importants pour les provinces, surtout dans les provinces comme l'Ontario, où nous n'avons pas de loi pour le bien-être des animaux. On a juste des lois contre la cruauté envers des animaux. Donc, nous avons en Ontario, les citoyens de l'Ontario, eux, ce qu'ils recherchent, et on a parlé des consommateurs et des gens recherchent des informations sur les méthodes de production. Mais moi, je vais au gymnase, je vais à une fête où mon mari me pose des questions sur mon travail et j'en parle. Elle dit, bon, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, ben moi, je vais dans les abattoirs, je vais dans les fermes. Et les gens disent, ah bon, oh, c'est intéressant. Je suis bien contente que quelqu'un le fasse, qu'il y ait des normes et qu'on s'occupe des animaux. Et ensuite, ils me disent, où est-ce que je devrais acheter ma viande? Donc, les citoyens, les consommateurs. Si Tina était ici, elle pourrait parler de cette double, de ces deux choses. Mais bien sûr, il y a des normes et je crois que le code de pratique avec tous les intervenants et le comité de chercheurs, je pense qu'ils arrivent à de très bonnes normes. Et je crois que c'est important pour les gens, pour les citoyens. Et également le cadre d'évaluation du bien-être animal. On va pouvoir montrer aux gens ce qu'il en est. Et Ron est en train de travailler là-dessus avec l'industrie laitière. Donc, on va avoir ce programme d'assurance. Mais il faut que ce soit aussi facile que possible pour les producteurs. Il faut vraiment souligner les milliers de bonnes choses que les producteurs font chaque jour dans leur ferme, parce qu'on ne le dit jamais aux gens. Une autre analogie que j'utilise souvent, lorsque vous allez chez Tim Hortons, il y a une petite marque sur la porte de la salle de bain comme quoi ça a été nettoyé. Donc il faudrait qu'on fasse ça à la ferme aussi, pas nettoyer la salle de bain, mais bon, d'avoir un dossier qui indique toutes les bonnes choses que les gens font. Et je pense que les codes de pratique sont un bon objectif. Également le programme d'évaluation. C'est une bonne manière de le faire. C'est bien d'avoir quelque chose basé sur le consensus, sur la transparence. Et moi, je sais que je suis très honorée de faire partie du CNSAE et de l'élaboration des codes de pratique. Merci, Penny. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une déclaration? Merci, parce que c'était à toi que j'allais dire. Alors, les gens qui ne sont pas directement impliqués dans le CNSAE, j'allais dire, Jeff, je me... Donc, qui êtes-vous, Sarah? Moi, je suis avec la Société contre la cruauté des animaux internationale. Lorsqu'on a posé la question à Stéphanie, elle dit, lorsqu'il y a un groupe de gens et qu'on travaille de très près sur un enjeu, et après, bon, les gens doivent faire le rapport. Et donc, c'est quelque chose qui va être important à l'avenir, parce que, bien sûr, il y a des problèmes avec certains codes à l'avenir. J'ai bien aimé également lorsque Catherine a parlé du processus des codes, comme quoi c'est quasi confidentiel. Et je me demandais ce que les panélistes pensaient en ce qui concerne l'avenir des codes de pratique et puis le mécanisme pour l'ouvrir plus rapidement plutôt que d'avoir à attendre 2 ans sans rien dire. Parce que vous, vous êtes inondé de questions. Les gens ont de très, très fortes opinions sur ce que vous avez produit. Avant que personne ne réponde, je veux que toi aussi, tu répondes à cette question. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu veux que je commence? Oui, bien sûr. D'accord. Je crois que c'est une discussion importante à avoir et je pense qu'on peut développer encore les choses. J'en ai déjà parlé à beaucoup de gens auparavant, mais c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire parce que les intervenants dans le bien-être animal, les transporteurs, les gouvernements, les producteurs ont beaucoup d'intérêt dans ce qui se passe. Pendant que le processus se déroule, il y a beaucoup de gens qui attendent, mais on pourrait aussi avoir certains jalons. Je sais qu'il y a des déclarations de progrès, mais je pense qu'il y a des choses qui devraient être indiquées. Le processus est également important, parce que si les gens ne se sentent pas impliqués dans le processus, comme on en a parlé aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de résistance avec le document final, parce qu'ils pensent qu'on leur dit quoi faire. Par exemple, l'association des producteurs peut dire « bon, on accepte ceci », mais si les gens sont plus impliqués, je crois que ce sera accepté plus facilement par tous les groupes qui en font partie. Merci, Sierra. Gord, vous voulez dire quelque chose? En réponse à sa question, je voudrais dire on devrait reconnaître qu'il y a eu beaucoup de critiques contre les codes originaux. Et je pense qu'ils avaient un but différent. C'était que tout le monde se rassemble et qu'on établisse une base pour tous les intérêts afin d'être capable de travailler ensemble. Et donc, les codes ont réussi à le faire. Et ensuite, on a pu assister au développement actuel. Et ça, ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on continue à raffiner le processus. Ce que je voulais dire en ce qui concerne la période d'attente de 2 ans, ce qui vient d'être terminé n'a jamais eu lieu nulle part dans le monde de développer tant de codes en même temps. C'était vraiment une tâche monumentale. Et on ne va pas pouvoir faire plaisir à tout le monde, c'est certain. Il va y avoir certains aspects des codes qui vont être considérés comme des problèmes. Je sais que le CNSAE recueille des renseignements de la dernière expérience et qu'on en tirera des leçons pour améliorer le processus. Mais pour le temps d'attente, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que la prochaine ronde d'élaboration de code sera beaucoup plus rapide. Le but est de ne pas attendre aussi longtemps, de les échelonner. Comme ça, on ne va pas tout refaire dans chaque code. On va simplement apporter des ajustements et ça sera plus facile et le processus de communication sera rendu plus facile aussi. Une dernière question et ensuite, il va falloir en terminer. Casey Van der Ploot de l'Association des éleveurs. Ce n'est pas une question, c'est juste quelques petites idées à considérer pour revenir à quelques questions simples. Le CNSAE est une organisation qui fournit une certaine valeur aux intervenants en bien-être animal. Donc, j'ai répondu à la question sur la valeur. Ah, donc, qui en obtient quoi que ce soit? Et je pense qu'on pourrait donc leur demander une contribution financière. Et l'autre chose à considérer également, ce serait que les activités de l'organisation devraient se concentrer sur l'éducation et sur la présentation des avantages pour la société. Ça devrait être vraiment une composante clé. Si l'organisation se constitue en entreprise à but non lucratif, on pourrait peut-être obtenir des déductions d'impôts et puis d'autres avantages. Donc ça, c'est ma contribution à moi. Merci à tous de vos commentaires. Si vous étiez trop timide, vous pouvez venir nous voir après avec vos idées. Si vous voulez le faire en privé, c'est tout à fait possible. Betsy va rassembler toutes ces idées et puis bon, bien sûr, nous en parlerons au CNSAE. Donc, merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Suzanne et merci aux membres du panel pour avoir démarré la conversation.